Jean-Luc Matteoli, après avoir enseigné à l'UFM de Dijon, intervient maintenant comme professeur dans des classes préparatoires aux grandes écoles. Et il a soutenu sa thèse en 2006, si mes informations sont bonnes. Et la thèse s'intitule « L'objet pauvre dans le théâtre contemporain ». Et elle a une très grande actualité puisqu'elle est en cours de parution. Elle est annoncée pour février 2011 avec un titre légèrement différent qui, je crois, s'intéresse cette fois aux scènes françaises, aux scènes contemporaines françaises. Et Philippe nous parlait à l'instant des matériaux et en particulier du plastique. Et je pense que l'intervention de Jean-Luc va nous emmener justement sur les qualités intrinsèques des matériaux, passer au crible d'un regard pointu sur les scènes actuelles et en particulier celle de la marionnette.
Je crois qu'on dispose. Je vois plus Didier Plassard, ça m'inquiète. Une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà, je vais essayer d'être à peu près comme il faut. Bref, ouf, on va voir. Voilà, donc, eh bien, c'est parti. Dans un texte de septembre 1908, Charles Péguy, que plus personne ne lit beaucoup aujourd'hui, mais j'en profite pour faire un petit peu de publicité, donc Charles Péguy évoque la vieille parenté des matières qu'il appelle anciennes et amies de l'homme, la pierre et le bois. Et face à ces matières modernes, j'essaye de faire les choses mieux. Face à ces matières modernes, il oppose le métal. Je cite, une contrariété profonde, selon Péguy, oppose matière ancienne et moderne. L'ancienne matière, dit-il, pouvait exiger le respect, la nouvelle ne le peut pas. Le métal, ajoute-t-il, est esclave, sans personnalité, sans dignité. Pourquoi ? Parce qu'il est, dit-il encore, fusible, ductile, malléable, souple, docile, interchangeable, allante et venante, une coulée qui se moule. Fin de citation. Pourtant, un siècle après Péguy, si bois et métal font signe de manière différente sur les scènes, et notamment les scènes marionnettiques, ils sont associés dans l'esprit du public comme des faiseurs de théâtre par leur résonance pré-technologique, voire pré-technocratique. Du coup, aujourd'hui, ce qui coule, se moule et se donne à tous en ne se donnant à personne n'est plus le métal, mais la matière qu'on appelle plastique, matière moderne, parfaitement nommée par sa propriété principale. Informe, elle n'appelle aucun respect au sens où l'entendait Péguy. Imposteur, qui a écarté le métal et le bois en les imitant parfois, elle engendre des milliers d'objets et de pièces dont la solidité n'est plus la qualité principale. La gaieté, le caractère bon marché et donc remplaçable à volonté, s'y sont substitués dans un présent triomphant. Donc, évidemment, la matière de cette intervention consiste à s'intéresser aux petits objets en plastique que manipulent certaines compagnies, parmi lesquelles celles sur lesquelles j'ai travaillé, comme par exemple le théâtre de cuisine. Voilà, donc on va essayer de parler un petit peu des matières amies, le bois, de la matière qui est associée aujourd'hui dans l'esprit du public et il me semble des faiseurs de théâtre auxquels je me suis intéressé, le métal, et pour terminer ensuite par le petit objet de plastique. Le plan est donné, l'air de rien. Voilà. Commençons en étant fidèles à notre programme, commençons par parler du bois. Le bois parle de l'intimité, de la chaleur, d'expériences menées dans la sécurité d'univers familiaux ou professionnels, structurés et protecteurs. Aujourd'hui, on passe de disparaître, sinon disparu. Ainsi, par exemple, des éléments scénographiques en bois utilisés par le théâtre de la Licorne dans Bestiaire forain, est un spectacle déjà un petit peu ancien, mais que peut-être certains d'entre vous ont vu. Les grandes caisses qui sont présentes sur le plateau en début de représentation et que le spectateur identifie comme des conteneurs, voire des cages, s'illuminent pour proposer l'image d'un village sur lequel la nuit tombe et où le cirque va arriver. Image d'un passé en voie d'effacement, confirmée par le passage à la fin du spectacle d'une petite caravane de roulottes miniatures qui traverse le plateau. Ancienne matière et donc ancienne manière de faire, en tout cas du cirque. Dans les sociétés contemporaines, le bois cumule les valeurs d'ancienneté et d'humanité. à sa surface, les traces de l'usage sont visibles de manière irrémédiable et qui imprime à la fin le frottement régulier d'une partie du corps, d'où le fréquent investissement sentimental et affectif dû à la présence-absence d'une personne. Aussi le bois est-il extrêmement représenté dans le travail du théâtre en ciel de Roland Schoen, à l'époque par exemple des oiseaux architectes, c'est-à-dire au tournant des années 90 et 2000. Le bois, dans le travail de cette compagnie, condense en effet cet état du temps dans lequel l'objet pauvre, en tout cas que j'appelle pauvre à la suite de Cantor, fait merveille, c'est-à-dire le passé, perdu, parfois regretté, qui est aussi un espace pré-industriel, celui des civilisations approchées par Walter Notzing, l'explorateur fictif inventé par Roland Schoen. Voilà pourquoi, dans ces spectacles, les ex-voto, les gris-gris, les jeux ou les œuvres d'art, toutes permettent de raconter des histoires à caractère ethnographique ou dans lesquelles le bois domine. Branchage, planche provenant de coques de navires, le bois peut être fondu ou décoloré. Les marques qu'il porte alors sont propices à la lecture des signes ainsi tracés et à leur exploitation plastique et narrative. Les visages des vigies des théoules, par exemple, tels qu'ils sont photographiés dans la petite encyclopédie Walter Notzing, ou tels qu'on peut les découvrir dans une exposition qui fait suite aux oiseaux architectes, montrent la manière dont les pièces de bois ont pu suggérer visage et corps à partir de leur fibrillation naturelle et en dialoguant avec elles. Mais l'objet de bois n'est pas nécessairement manufacturé, il peut être aussi simplement ramassé dans la nature. Ainsi, des nombreuses bûches, souches ou branches en forme de coque, dont le metteur en scène italien Antonio Catalano fait des navires d'un voyage d'Ulysse exposé au public dans Univers Sensible, qui est un spectacle qu'on a pu découvrir lors de la Biennale de la Marionnette à Paris en 2005. Cet objet de bois, naturellement formé sans intervention humaine sinon la main qui l'a choisi, constitue une des bornes du domaine pauvre. Le bois est certes la matière reine des entreprises mémorielles. À l'état de ready-made, il endosse une mémoire plus large encore, dans laquelle l'homme est à la fois inclus en tant qu'espèce et exclu en tant qu'individu. Nickel. Le métal. Deuxième partie. C'est un plan qui n'est pas très original dans le fond, mais il a le mérite d'être clair. Le métal. Les connotations industrielles et techniques du métal sembleraient plutôt a priori l'éloigner de la main humaine dont le bois garde la trace, ainsi que des histoires à caractère ethnographique que cette trace peut engendrer. Le métal a cependant pour lui les nombreuses suggestions qu'apporte la rouille à son aspect, l'oxydation produisant des variations de couleurs qui sont autant d'incitations à détournement. La surface ainsi abîmée constitue une mine d'utilisations esthétiques, tandis que telle perforation, franche ou dentelée, peut devenir une invitation à l'investissement imaginaire. Les marionnettes automatiques, prétendument construites par Raoul Huet pour sa crèche à moteur, dans le spectacle du même nom de la compagnie Opus, l'office des fabricants d'univers singuliers. Manifestement, ces marionnettes ont été construites de briques et de brocs par un récupérateur acharné, avec ce qu'il avait sous la main, et dans un esprit où domine le travail bien fait, plutôt que le travail joliment fait. On se trouve cette fois du côté des ethnographies populaires. Métal encore, dans Chère Famille de la compagnie La Licorne, spectacle de la même, dont j'ai déjà parlé, ici se rejoignent dans ce spectacle les bricoleurs et les circassiens d'antan. Par exemple, la piste du cirque de la famille Katsuro est par exemple un établi rond, haut, tournant, dont le disque rouillé se prête à tous les numéros. Sa machinerie est visible, roue dentée bien proche d'un pédalier de bicyclette par exemple, molette de manœuvre, ainsi que ses soudures. Lui aussi, très apparemment bricolé, affichant ses coutures pour les mieux donner à voir, cet établi évoque l'usage de la clé de 12, comme dit Claire d'Anquane, auquel se livrent les deux frères pour refaire un monde à leur convenance. Ici encore, le matériau peut dans une assez large mesure déterminer l'histoire. Bref, métal et bois évoquent des histoires de mémoire, celles d'individus ou de groupes réduits, adonnés à des métiers aujourd'hui en voie d'effacement. À la surprise générale, troisième partie, le plastique. Et là, les choses changent un tout petit peu. Donc, sans plus de noblesse que le métal jadis, le plastique est une matière universelle dont use, par exemple, le théâtre de cuisine, mais aussi le théâtre de Philippe Gentil. Il suffit d'ouvrir par exemple la valise que Christian Carignan transporte avec lui partout lorsqu'il anime des formations en direction des professionnels. On y trouve un petit poisson de plastique, des choux de Bruxelles de dinette en plastique, des couverts en plastique, un wagon de train miniature en plastique, une brosse à dents en plastique, une bougie d'anniversaire dans sa corolle de plastique, un sapin de bûche glacée en plastique, une épingle à linge en plastique, etc. Ce qui est intéressant dans ces objets, c'est que ce sont moins des objets que des exemplaires. Ils ne parlent plus alors véritablement de bricolage ou d'ethnologie lointaine ou populaire, c'est-à-dire que les histoires désormais sont plus quotidiennes à l'image de ces brosses à dents ou de ces épingles à linge. Le plastique est celui, en fait, des menus objets de notre époque, gais et bon marché, notamment les plus quotidiens. Au contraire du bois et du métal, les objets de plastique sont déjà prêts, ready-made, comme ces figurines extraites du monde des jouets d'aujourd'hui. On trouve ainsi de minuscules arbres ou minuscules animaux en plastique moulés, extrêmement courants, susceptibles en une seconde de planter un décor ou un personnage. Dans Catalogue de voyage, qui est un spectacle déjà très ancien du théâtre de cuisine, mais dont Christian Carignan actualise toujours certaines séquences, un simple palmier de 5 cm de haut, extrait du sable par le comédien, suffit à figurer une oasis délicieusement fausse et naïve, quasiment kitsch, où le petit camion rouge de l'histoire trouve momentanément un abri. Éphémère, produit par des vogues à la durée de plus en plus courte, souvent marquée par son origine publicitaire, l'objet de plastique s'affirme comme le parangon de la banalité et du dérisoire. En usant de ce matériau banal et des objets qui en sont composés, le théâtre d'objets affirme son lien à l'époque contemporaine. Le théâtre d'objets, déclare d'ailleurs Christian Carignan, est de notre temps et de notre société. On pourrait en dire autant de le petit objet en plastique. De cette société, il dit, la séduction superficielle et un peu vide, la tendance oublieuse, mais aussi la nature de jouets, pas si sérieuse. Et aussi, il parle des gens en tant que masse, c'est-à-dire tous ceux qui en ont possédé un exemplaire, imposé, entre guillemets, par la mode ou la publicité. Pour Christian Carignan, comme pour les enfants, le plastique, c'est aussi le plastoc. Le son vocalique, final, le rapproche évidemment du toc, c'est-à-dire de cette catégorie d'articles sans grande valeur marchande qui imite ou remplace ceux qui imposaient naguère le respect. Les remplace, les imite ou bien s'en moque. Les poupées Barbie et Ken, produits standardisés de la grande consommation enfantine, figurent dans La caverne est un cosmos, autre spectacle du théâtre de cuisine, et y représentent en un démarquage ironique Adam et Ève, lors de la scène d'apparition de l'espèce humaine sur la Terre. Le petit camion rouge, lui aussi en plastique, dans le désert, qu'est la valise pleine de sable du catalogue de voyage, ne se moque-t-il pas, lui non plus, dans le fond, des grands moyens déployés par le cinéma pour donner l'illusion d'un salaire et d'une peur ? Comme les seaux de plastique rouge et jaune de l'anthologie du théâtre d'objets, autre spectacle et dernier spectacle que je citerai du théâtre de cuisine, démarquent en souriant le patron des machineries de théâtre anciennes. Car l'objet de plastique, ce petit David, réussit aussi bien qu'un autre Goliath à procurer l'illusion. Cela marche, en effet, quand même, comme si on avait trouvé, avec un petit objet brillant et commun, un raccourci pour pouvoir raconter l'histoire à moindre frais, sans avoir besoin de bobines ni d'effets spéciaux. À la source, donc, d'histoires ironiques ou parodiques. Le plastique, moulé, ça rime finalement tout ça. Je répète pour que tout le monde en prenne bien conscience. À la source, d'histoires ironiques ou parodiques, le plastique, moulé en une apparence figée, se moque des grands modèles de l'art de masse et évoque les gens sans passé, dont il figure obliquement l'uniformité. Attention, ça conclut. L'objet de plastique, ignoble, enfin ignoble, ignoble, donc il n'est pas noble, c'est une petite allusion à l'introduction, Charles Péguy. Donc l'objet de plastique ignoble montre ainsi un détournement en train de se faire à partir de ce qui semble le moins propice aux transformations poétiques, l'objet usuel, quotidien, dépourvu de toute valeur économique ou esthétique pour le théâtre d'objets. Le plastique peut figurer sur une scène, un lieu, un personnage, une émotion, se construiront à partir d'une matière dévalorisée par l'usage quotidien et rendue quasiment invisible par lui. En même temps que le monde monde de l'enfance, qui fut un peu celui de ses concepteurs dans les années 60. L'objet de plastique rapporte une mémoire, celle surprenante, que les sociétés jetables attachent malgré tout et malgré elles aux productions standardisées. Raconte-t-il des histoires ou la petite histoire ? Il raconte sans doute qu'entre l'humain et l'objet, les ponts sont loin d'être rompus. Merci beaucoup.